Salut, c'est Cure, épisode technique, je suis compagnie de Maxime.
Salut.
Ça va bien?
Très bien, toi.
Oui. Aujourd'hui, on va aborder le volet évasion des EDR. En pré-show, ça levait un peu de passion, fait que ça va être super intéressant comme conversation. Pour l'amorcer, on va l'amorcer de façon technique, l'évasion technique en premier, qui est probablement le volet le plus peut-être étudié à l'heure actuelle. Et ensuite, on va glisser vers d'autres façons de comment cette évasion-là devient inutile à terme, mais quand même fait partie du paysage. Je vais te laisser commencer là-dessus.
Oui, super. L'évasion technique, c'est un gros sujet, mais c'est aussi un sujet, je pense, qui va très profondément, très rapidement. Right? Donc, à la surface, si on définit un petit peu les termes de quoi on parle, si on parle d'évasion, vraiment, on dit par technique. Donc, c'est pas une évasion, c'est pas de quoi de généraliser. Puis c'est ça, je pense, la deuxième partie qu'on va jaser. Mais donc, c'est vraiment un behavior, donc il y a quelque chose qui se passe spécifiquement, qui est malicieux. Et l'idée de l'évasion est de dire que le EDR ou l'antivirus, il y a un peu de distinction là, ne voit pas l'activité qui est là, qui vient de se faire. Je pense que je brièvement comme parler de la distinction antivirus puis EDR parce que c'est une différence assez importante dans ma tête, qui est de dire que parce qu'un antivirus doit opérer de façon 100% autonome, right? Pour quand je parle d'antivirus, moi, vraiment, ce que je veux dire, c'est un agent qui roule sur l'ordinateur, à date, ça sonne comme un peu une EDR, mais qui est 100% autonome. Donc, l'usager n'a rien à faire, le SOC n'a rien à faire, ça prévient des mauvaises choses. Et donc, une évasion pour un antivirus, ça veut dire failure, right? Ça veut dire qu'on vient de perdre la game, essentiellement. Parce que il n'y a personne d'autre pour faire un deuxième niveau d'analyse. Tandis que le EDR, le but d'un EDR en général, n'est pas la prévention 100% autonome, mais plutôt la génération de signaux, donc la génération de, nous on appelle ça de la télémétrie, qui après le fait va être utilisé pour éventuellement dire hey, il y a quoi de malicieux qui se passe. Et donc quand on parle EDR, ben là dans le fond ce qu'on veut dire c'est l'évasion d'un signal en particulier. Donc je pense si on prend disons qu'on essaie de définir l'évasion la plus générique qu'on peut penser, ben tu sais qu'on pourrait définir, je sais pas, pour moi c'est l'archétype. Disons qu'il y a un document malicieux, il y a un PDF malicieux qui contient un exploit et l'usager double-clique dessus et il y a de l'exécution qui part. Donc, si on définit un petit peu comme le noyau du behavior, okay, c'est ça, ben dans ce cas-là, l'évasion pourrait être d'un point de vue, surtout antivirus, ça serait, bon, mais il y a eu un exploit qui vient de se faire dans genre Acrobat Reader, potentiellement dans l'EDR aussi. Du point de vue de l'EDR, ben, il y a comme des signaux un peu en périphérie de tout ça, donc qu'on pourrait faire un call-out dessus qui serait, donc oui, il y a eu un exploit, donc on a gagné l'exécution de code dans le processus de Acrobat. Et potentiellement, en fait, c'est peut-être un behavior différent pendant que je pense, mais c'est potentiellement, ce serait les activités que le processus fait maintenant. Donc, si l'exploit part, habituellement, quand il va avoir un exploit qui va partir, l'attaqueur va essayer de assez rapidement pivoter en dehors de où est-ce que l'exploit vient de se faire, right? Si c'est Acrobat, tu viens de gagner l'exécution de code dans Acrobat, ben, tu veux pas que l'usager ferme Acrobat, puis là, ben, toute ta mémoire est partie, puis bon, ça sert à rien, tu sais. Alors, tu vas vouloir rapidement, je sais pas, écrire un exe sur le disque, dans un autoruns, ou t'injecter dans un autre processus. Ça fait que il y a comme d'autres behaviors très, très, très proches de l'exploit. Et donc, on définit dans le fond que l'évasion est qu'on ne voit pas un de ces behaviors-là.
Ouais, je vais rajouter par là-dessus, puis c'est ça qui est important, puis tu as déjà abordé une partie de ça, c'est que la confusion principale, c'est que généralement, les agents IDR ont un antivirus inclus, et la plupart des produits fonctionnent de façon hybride, c'est-à-dire qu'ils ont les deux, et l'évasion, de façon ce qui est largement publicisé, et ce qui fait ce que les chercheurs réussissent à démontrer, c'est le volet antivirus principalement dans lequel ils vont frapper. Il y a d'autres choses aussi du point de vue EDR, mais du point de vue antivirus, c'est vraiment là où le plus gros du bruit. Et la confusion, parce que là, maintenant, les antivirus purs, ça n'existe plus. Là. En tout cas, c'est encore plutôt rare. Là. C'est peut-être au niveau domestique, là, mais au niveau entreprise, ça n'existe plus. Ou je ne connais pas d'entreprise qui ont encore des antivirus, qui ont juste des antivirus. Maintenant, ils ont tout un EDR qui contient des structures de blocage de façon autonome, puis j'aime bien ta définition parce qu'elle est très claire, d'opérations autonomes. Oui, c'est inclus dans les agents IDR, mais ce n'est pas la fonction d'origine d'un agent IDR.
Oui, en effet, exactement. Puis je dirais que même si dans beaucoup de cas, c'est combiné, ça vaut quand même la peine, c'est ça, de faire la distinction. Parce que l'évasion antivirus, ça va être une évasion très technique. Et dans ma tête, l'évasion EDR, c'est beaucoup plus par rapport au craft de hacking, dans le sens de c'est par rapport à comment dire ça, tu sais, à l'opération de ce qu'un hacker fait, tu sais, ses activités, et non pas comme un seul aspect technique. C'est intéressant aussi parce que l'industrie de l'antivirus est aussi une industrie qui est très spéciale maintenant. Il fut un temps où, tu sais, on avait plusieurs antivirus, mais j'ai trouvé ça fascinant quand j'ai appris ça. Mais de nos jours, à travers tous les vendeurs de produits de cybersécurité, il y a peut-être 3-4 engins d'antivirus. Et c'est tout, c'est partagé, c'est certaines compagnies qui font ces engins-là puis qui revendent à tout le monde. Alors l'antivirus, c'est vraiment, c'est ça, tu sais, quelque chose de très ciblé spécifiquement pour, je pense que l'exemple d'un exploit, c'est un exemple parfait, tu sais, essayer de pogner un exploit quand ça arrive, c'est assez, c'est un signal qui est tellement de haute qualité qu'un antivirus peut vraiment s'attaquer à ça par rapport à d'autres signaux qui sont des signaux classiques EDR, mais tu sais que si tu ne sais pas l'environnement ou le contexte, ben c'est moins évident si c'est vraiment malicieux ou pas.
Ben, le cas classique, ce que tu mentionnais, c'est si tu as un peu comme mentionné, c'est genre tu as Outlook qui ouvre un message, puis pouf, tu as un exécutable qui s'en va. Ça, c'est une signature ou un signal qui est très clair que l'agent peut devenir autonome à terme et va l'exécuter sans voir. La réalité, c'est que comme et au même titre que comme Microsoft a désactivé par défaut les macros, les malveillants se sont adaptés dans quelques semaines, les stratégies ont changé. Donc, c'est là la signature ou le signal qui était utilisé de type antivirus est devenu invalide en quelques semaines parce que ce chemin-là n'est plus utilisé. Et c'est là où tout l'avantage du EDR par rapport à l'antivirus commence à apparaître parce que l'antivirus est statique dans sa signature parce qu'il est autonome. Mm-hmm. L'EDR, il est dynamique parce que lui, il n'y a pas de signature au sens classique de ce qu'on pourrait voir au niveau des antivirus.
Exactement. Et ça ne veut pas dire que l'antivirus est, pas moins efficace, mais moins bon qu'un EDR, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est que le but d'un antivirus est très différent. Dans ma tête, pour moi, l'antivirus, le but est d'éliminer du bruit. Donc, de faire monter le plancher de la sécurité dans la compagnie pour dire que ce que l'équipe de sécurité, ce que le SOC ont besoin de regarder, ben c'est pas toutes les petites affaires qui sont niaiseuses puis qui sont sur des millions d'ordinateurs dans le monde. Ça, tu veux éliminer ce bruit-là pour que les équipes puissent faire du focus sur les choses qui sont plus avancées. Tout à fait.
Ouais, effectivement. Puis c'est ça, enlever ça. Puis c'est tout le volet anti-exploit qu'on va retrouver sur les agents antivirus, EDR, ces affaires-là. Tous ces volets-là qui bloquent des chemins, donc qui empêchent ces chemins-là d'exister, viennent justement limiter la capacité d'un attaquant de les utiliser facilement. Puis de mon expérience dans un SOC, c'est justement quand on les active pas, on a beaucoup de bruit, on active les anti-exploits, on retire énormément de bruit, puis là, on voit les attaquants plus sophistiqués, qui ont un peu plus de capacité, quand l'autre va juste frapper dans le mur. Puis c'est super drôle, parce que j'ai un cas spécifique où je l'ai vraiment vu, parce que j'ai eu tous les signaux de l'IDR, étaient tous là, fait tu le vois rentrer, il ouvre le fameux courriel, toute la stratégie classique, et il a downloadé son premier payload. Et là, tu le vois, pendant à peu près une heure et demie, il frappe à toutes les choses, puis tu le vois passer, là, ça en est ridicule. Fait qu'on l'a regardé parce qu'on trouvait ça drôle, parce que là, tu fais comme, oui, mais c'est qui ça? Puis là, il a juste essayé jusqu'à temps qu'il frappe quelque chose qui marche. Là, quand il a marché, là, il est parti, puis là, on l'a éteint, là, mais on l'a vu comme un peu comme on regardait un rat dans un laboratoire pour le regarder faire ses affaires, puis là, mais c'est super drôle, mais quand t'actives, justement, pour revenir sur l'importance d'activer le volet antivirus, bien, tout ça, on l'a pas, parce que les signaux n'existent pas, parce qu'ils ne s'y rendent pas.
Exactement. Alors, ça prend de tout pour avoir une bonne défense. Ça, c'est le summary de tout ça. ça fait que c'est ça. Donc ça, on essaie. J'essaie de revenir un petit peu comme au point de vue de l'évasion technique. Il y a beaucoup de chemins que ça peut prendre. Parce que fondamentalement, les techniques sont très. Les différentes techniques vont avoir des façons de faire de l'évasion qui sont très, très différentes. Tu sais, je pense qu'il y a probablement certaines grandes catégories, ou plutôt plusieurs méta-évasions. Celle qui, pour moi, qui me revient en tête, c'est Windows a. Oh mon Dieu, c'est quoi le nom? Windows a un système qui génère des événements qui peuvent être utilisés pour monitorer de la sécurité. Le nom m'échappe.
C'est pas Sysmon ou Defender que tu parles?
Ouais, c'est ça. C'est Sysmon utilise ces API-là pour faire du monitoring de choses. Comme un des exemples de ça, c'est si tu veux faire du monitoring de DNS. Donc, sur Windows, Windows a ce qu'on appelle un resolver, un central resolver. Donc, quand un processus well-behaved, un processus donc qui est coopérant, veut résoudre un DNS, donc google.com, c'est à quelle IP, le processus ne va pas faire la résolution lui-même, il va passer à travers un processus de Windows qui, lui, est responsable de faire un cache et de faire les lookups de DNS. Et donc, si tu sniff sur le réseau, si tu sniff sur le réseau et tu regardes qui fait les résolutions, ben, tu vas voir que toutes les résolutions viennent du resolver. Et donc, tu n'as pas le processus original qui a fait la vraie demande de résolution. Et donc, ce framework-là d'event, c'est comme un trace, est fourni par Windows. Et te permet de dire, hey Windows, dis-moi quand quelqu'un fait une demande DNS et je veux pas le resolver, je veux le vrai processus original. Alors, il y a beaucoup de hooks profonds dans Windows pour faire des choses qui sont un peu plus au niveau de l'application et non pas du système d'opération. Bref, ce système-là peut être utilisé pour beaucoup, beaucoup de types d'événements et c'est assez facile à utiliser. Alors, il y a beaucoup de EDR et surtout des EDR. Ce sont probablement certains antivirus qui vont l'utiliser parce que c'est un one-stop shop. Tu sais, c'est un endroit que tu peux hitter, tu comprends l'API puis recevoir tes événements. Mais donc, ça t'ouvre à un type d'évasion qui est particulièrement effrayant, je dirais, si le produit se base entièrement sur ça, qui est de dire, bon, ben moi, je vais évader ce système de hook-là complètement. T'sais? Donc, c'est pas juste une technique que je vais essayer de m'enlever, mais plutôt, je vais trouver une façon d'aller dans ce système-là et le disabler, donc de dire qu'il n'y a plus, les événements ne partent plus, ou les événements qui contiennent mon information ne sont plus rendus à l'EDR. Et donc ça, c'est un type d'évasion qui va avoir particulièrement un gros impact parce que ça va vraiment ouvrir, tu sais, pas juste une porte ouvrir une porte, mais ça va vraiment comme ouvrir toutes les portes à l'attaqueur à utiliser. Ce qui est très critique. Sinon, tu sais, il va avoir quoi? Il va avoir par rapport au hook, tu sais, des hook user mode, des hook kernel mode. Mais honnêtement, des vrais hooks, il n'y en a plus beaucoup par les systèmes de sécurité parce que c'est le même mécanisme que les attaqueurs utilisent et Windows, tu sais, il barre ça de plus en plus comme macOS, par exemple. Alors, de plus en plus, c'est pas des questions d'évader des vrais hooks qui sont faits par le processus malicieux par le processus de sécurité, mais plutôt des callbacks. Donc, un callback, c'est dans le fond un hook qui est officiel, que Windows dit très spécifiquement, « Hey, si tu veux voir les connexions au réseau, ben, tu appelles telle API, puis tu t'enregistres de telle façon, puis je vais te les donner. Alors, c'est ça. Je pense que quelques
techniques... Ouais, ben c'est ça, de façon classique. Puis il y a des sites qui spécialisent justement dans la liste des hooks que les différents antivirus vont utiliser. Et donc, incidemment, si le DLL n'est pas hooké par le produit de sécurité, ben il y a une possibilité de par un attaquant d'y passer puis d'aller faire des choses. Mais un peu comme on parlait en pré-show, c'est une chose de réussir à contourner l'EDR, l'antivirus de cette façon-là. Mais c'est jamais suffisant pour mener une attaque complète. Et c'est là, quand l'attaquant va pivoter, ben il y a d'autres places où il va frapper. Puis aussi, c'est amené l'aspect intéressant. Je le connaissais moins sur Windows. Je sais que Mac, c'était vraiment comme ça. Faut vraiment que tu t'enregistres au OS pour accéder. Puis même en plus, Apple est très rigide sur la capacité d'obtenir la permission d'accéder à cet élément-là. En tout cas, il y a toute une petite danse du soleil à faire pour l'obtenir. Je sais parce que j'étais au Objectif Balussi l'an dernier et justement il y avait des personnes qui expliquaient toute cette danse du soleil là et c'est assez compliqué, fait que c'est pas facile d'y accéder à ces API là parce qu'en même temps ces API là retournent énormément d'informations qui sont très intéressantes du point de vue sécurité, mais il y a de moins en moins de tolérance au niveau Apple, puis probablement la même chose au niveau Microsoft. Parce que j'en comprends, des accès directement à kernel. Ils permettent plus ce genre de choses-là. Si tu veux le faire, tu as un chemin, sinon tu n'as plus accès.
Ouais, en fait, l'histoire est un petit peu différente dépendamment des plateformes, mais je pense que pour le décrire un peu de façon holistique, user mode sur Windows, c'est un free-for-all. Right. Donc, à part quelques processus qui sont très protégés, il y a aucune protection entre deux processus pour lire la mémoire de l'autre ou écrire dans la mémoire de l'autre. C'est très, très, très minimal. Ce qui fait que les hook user mode, il y en a plus beaucoup. C'est très error prone. Donc, c'est facile de faire des erreurs puis de se mettre à cracher tous les autres processus. Et à la fin de la journée, comme il n'y a pas de protection, ben ça veut dire que l'attaqueur a autant d'accès que le défendeur, dans ces hooks-là. Alors, de ce que j'ai vu, c'est de moins en moins populaire. C'est pas comme il y a 10 ans où tout le monde et son chien avaient leur propre hook user mode dans tout, puis c'était l'enfer. Mais le kernel mode, c'est très différent. Et c'est là que ça devient différent des plateformes aussi. Donc, Windows dit, on veut pas que les processus de sécurité fassent des hooks en mémoire et dans le kernel. Et la raison, c'est pour une raison de stabilité. Right? Stabilité, puis aussi pour une raison de se protéger contre les attaqueurs. Parce que si la compagnie de sécurité peut le faire, ben l'attaqueur potentiellement peut le faire aussi. Alors, c'est là que Windows te permet encore de loader dans le kernel. Mais il y a beaucoup plus de protection que c'était dans le temps, justement, il y a 10 ans, où, tu sais, une fois que tu loadais dans le kernel, tu pouvais faire ce que tu voulais. Maintenant, il y a beaucoup de CRC, donc des checks qui sont faits sur la mémoire récursive. C'est un rabbit hole comme de discussion super intéressant, mais ça devient très profond, très rapide, rapidement. Et donc, Windows, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, ben, on va standardiser qu'est-ce qu'on peut hooker, dans le fond. Et c'est là que je dis comme un callback pour faire une différence. C'est à la place de moi aller écrire dans une adresse que je pense que c'est la fonction qui ouvre des sockets sur le réseau. Ben, à la place de faire ça, ben, moi, j'appelle un API de Windows dans le kernel qui très clairement dit, ouais, si tu veux recevoir, tu sais, des événements de sockets qui sont ouverts, tu appelles ça, puis tu vas recevoir ça, tout est documenté, c'est tout beau, tout clean, en théorie du moins. Et donc ça, c'est la saveur Windows. La saveur macOS, c'est une saveur qui évolue à peu près à tous les 6 mois. C'est l'enfer. Pour être quelqu'un qui doit regarder puis construire du logiciel sur macOS, l'enfer. Mais maintenant, aujourd'hui, leur stratégie est de dire on peut même plus loader dans le kernel de macOS. Donc, du tout, eux, ils appellent ça des kernel extensions. Donc, il n'y en a plus du tout. À la place, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un framework d'extension user mode. Donc, ça roule en mode utilisateur, mais protégé. Et donc, en tant que logiciel de sécurité, ben, je peux m'enregistrer à recevoir ça. Mais comme tu dis, ça prend 15 entitlements qu'il faut recevoir à travers 3 portails différents. Il faut saigner un check-in pour être capable de savoir comment faire. En tout cas, nous, on a même eu des problèmes, nous, parce que quand ils sont sortis avec ça au début, puis c'était comme, « Ah non, il n'y a plus de kernel, la stabilité, blablabla. » Fait que, bon, on move notre logiciel, on change notre logiciel pour qu'il fonctionne avec ça. Puis on se mettait, on paniquait des Mac. Donc, c'est l'équivalent d'un blue screen of death. Donc, le kernel, tu sais, qui mourait complètement. Puis, ben, on communiquait avec Apple, puis on leur dit, hey, tu sais, nous, on utilise votre affaire, puis on a vraiment triple vérifié, puis on utilise ça de façon correcte. Et puis, c'est Apple. Alors, je pense que le mieux qu'on a reçu, c'est qu'on a reçu un email de quelqu'un qui nous disait, ah oui, c'est vrai, on dirait qu'il y a un crash. C'est tout. Pas de « Ah, c'est nous, c'est un problème » ou « Vous faites quelque chose de façon mauvaise » ou rien comme ça. Mais genre 2 semaines plus tard, ben, il y a eu un update puis là, magiquement, ça marchait. Aucune release note, rien. L'enfer. Excuse-moi, tu peux voir, tu viens de frapper que une
courbe. Oui, non, mais c'est quand j'avais entendu le doute qui avait parlé de ça, Objectif de Silenceur, c'est à peu près le même genre d'expérience qu'il relatait. Le fait d'être réussi, je pense qu'il avait réussi à avoir un entertainment qui l'autorisait, mais tu sais, ça a été, il dit, c'est hyper compliqué. Ils veulent pas que personne touche à ça, quand dans le fond, tout le monde devrait aller là. Puis au lieu d'aller de des chemins d'autres, je pense que ça fait 2 ou 3 itérations du macOS qu'on n'a plus le droit de toucher à ça, parce que tous mes logiciels ont tous tranquillement droppé leur kernel extension avec le temps. Puis là, à l'heure actuelle, je pense que sur la version que j'ai là, qui est une version en retard, il n'y a plus 0.0 de les fameux kernel extensions ne sont plus là, c'est toutes des API. C'est pas si stable que ça encore. Je parle pas de votre expérience non plus, mais même moi, comme utilisateur, c'est pas concluant. Mais il va falloir que j'aille. C'est pas encore concluant. Ils veulent bien faire, mais non.
T'sais, ce qu'ils essayent de faire, là, c'est. Ils sont dans le milieu d'un processus. Ils ont iOS, tu sais, pour iPhone, puis iPad, puis tout ça. Puis iOS est un système d'opération qui est incroyablement secure, mais c'est aussi très, 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 très différent de, du système d'opération que toi puis moi, bon, on a connu, surtout il y a plusieurs années, tu sais, où tu pouvais faire un peu n'importe quoi dedans, tu sais. C'est tellement limité, c'est tellement strict. Et ce qu'ils essayent de faire, dans le fond, c'est qu'ils veulent passer tranquillement de macOS à iOS, tu sais, le système iOS un peu surtout. Alors, je pense que le pain, la difficulté, c'est qu'ils veulent pas le faire d'un coup, c'est qu'ils veulent faire ça tranquillement. Alors, à chaque étape, c'est des casse-têtes.
Ouais, puis de mon point de vue, puis tu sais, là, on diverge complètement, mais on va s'amuser avec ça aussi. C'est du beau temps qu'ils font. C'est-à-dire que, parce que c'est tout du BSD, en dessous, c'est une base BSD de laquelle ils sont partis puis ils ont monté. Et là, ils reconstruisent par-dessus d'autres choses qui n'est pas dans un écosystème fermé comme iOS. iOS aussi, c'est un BSD qui est en dessous, c'est relativement le même principe, c'est sensiblement le même kernel, puis les mêmes. C'est autres, ils ont économisé sur le développement du code parce qu'ils ont uniformisé sur l'ensemble, puis ils économisent au fond. Ça, c'est leur stratégie, ce qui n'est pas mauvais. Mais quand tu arrives en macOS, c'est vraiment bolt-on, c'est-à-dire que tu remets des choses comme le TCC, qui est comme l'espèce de mesure de contrôle qu'on est habitué de voir sur le iOS pour autorisation de la caméra, autorisation du micro, et ainsi de suite. Il y a tellement de façons de le contourner, puis à chaque année, parce que là, au moment où on enregistre, il y a Objective Alice qui roule, et il y a encore plein de façons weird de réussir à contourner ça, il y a encore plein de façons. Donc, on voit clairement que c'est bolt-on, que c'est pas built-in, qu'ils l'ont penser après coup, ils n'ont pas fait du kernel vers le haut, mais c'est du user mode vers le kernel en termes de réflexion de sécurité. Fait que c'est un peu spécial. Moi, je le vois comme utilisateur puis comme opérateur, là, pas comme développeur, comme dans lequel toi tu te retrouves, qui doit être beaucoup plus compliqué à devoir gérer ces états d'âme-là dans l'évolution du système d'exploitation, là.
Ah oui, exactement. Chaque update, c'est quelque chose de nouveau. Mais bon, il faut quand même, dire, c'est pas, tu sais, ils font ça de, ça vient d'une bonne place. Tu sais, c'est de rendre ça plus secure. Alors, faut pas trop bitcher sur ça, tu sais. Ça pourrait être pire. Ils pourraient dire complètement, nous, on se fout de tout, puis c'est, tu sais, free for all. Fait.
Ah. Ah, ils ont moyen, il y a un bon point de départ, mais bon, bref, c'est ça. Fait que, bon, retournons au EDR.
oui, c'est ça. Je pense que tu t'avais comme un peu introduit un peu la deuxième partie, je pense, de ce qu'on
oui, on allait jouer. Absolument. Ben, c'est ça. Puis c'est intéressant parce que là, c'est le volet technique qui est abordé, c'est-à-dire les signaux de base, la télémétrie de base qu'on reçoit ou le volet blocage autonome sur la machine. Mais la réalité, la vraie puissance de l'EDR, puis essentiellement maintenant, il appelle ça du XDR, mais c'est la vraie source, c'est du EDR. C'est les signaux qu'on reçoit, la télémétrie qui est remontée dans une place centrale qui permet de faire une analyse beaucoup plus sophistiquée. Puis quand je parlais maintenant du cas, par exemple, qu'on a vu l'attaquant aller, tout ça, ben c'est pas parce que c'est pas sur la machine que je l'ai vu, c'est vraiment sur le volet EDR, les signaux qui remontaient. Et c'est sur ce volet-là qui est beaucoup plus intéressant. Et l'évasion n'est pas la même nature. L'évasion, les structures sont pas de la même façon. Et là, on n'est pas tout à fait dans la même zone parce que l'évasion technique, elle a une portée limitée. Tu l'as bien expliqué. Tu vas évader un hook, mais tu vas en frapper un second. Tu vas frapper quelque chose ailleurs de façon inévitable. Fait qu'il y a du bruit et c'est là que l'idée arrive parce que si t'as réussi à faire être silencieux sur un, tu pourras pas être silencieux sur un autre et l'information va finir par remonter, justement.
Exactement. Tu sais, je dirais que c'est l'évasion au point de vue du EDR, c'est par rapport à l'art du hacking dans ma tête. Donc, c'est, tu sais, on prend un pas en arrière et on dit, comme le EDR n'a pas besoin d'être correct de façon autonome à 100% du temps. Là, ça ouvre beaucoup, beaucoup de possibilités. Et donc, si je décrivais un petit peu, disons, un attaque prototype, De quoi on parle dans le fond, c'est bon, si on parle peut-être du même exemple qu'on avait parlé, right? Donc, il y a un document, un PDF ou whatever, ou c'est un email Outlook qui drop un exécutable sur le disque. Et l'exécutable, bon, va faire un peu de reconnaissance pour voir où est-ce qu'il est. Tu sais, l'attaqueur va essayer de comprendre où est-ce qu'il est dans le monde. Il va peut-être chercher pour certains fichiers, peut-être un peu de ce qu'ils font. Si c'est pour faire du ransomware, bon, ben, peut-être qu'ils vont commencer à regarder, est-ce qu'il y a des logiciels de backup qui sont enablés? Peut-être qu'ils vont essayer de disabler, tu sais, d'arrêter ces logiciels de backup-là. Peut-être qu'ils vont dire, bon, ben, je suis sur une workstation ou un laptop, tu sais, de quelqu'un qui a pas rapport, puis moi, je vais être sur le domain controller qui est, tu sais, dans des réseaux Windows, c'est des boîtes avec beaucoup de permissions, disons. Alors, peut-être qu'ils vont dire, bon, ben, maintenant que je suis ici, je veux essayer de me rendre dans le domain controller. Alors, ils vont faire des probes, tu sais. Alors, il y a vraiment beaucoup d'activités quand on prend un pas en arrière, puis on dit, bon, mais l'attaque de façon globale, c'est quoi? Et comme on est capable d'introduire du jugement ou des signaux qui sont plus complexes, qui n'ont pas besoin de se faire en une milliseconde sur la boîte, mais plutôt que tu peux dire que c'est un signal qui prend 10 minutes à accumuler, qui prend plein de sources différentes, ben là, l'évasion, ça devient un cas que, bon, oui, il y a une évasion technique sur telle partie de l'attaque, mais il y a 15 autres techniques qui sont juste à côté, puis on en a pogné 10 des autres. Et donc, les chances sont que tu sois capable de détecter ça. Et nous, ce qu'on voit, c'est que les signaux, comme un EDR, justement, ne fait pas ça directement sur la boîte, la plupart du temps. Bon, il y a souvent une partie d'autonomie, mais il y a beaucoup de ça qui est dans le cloud. Ça veut dire que d'un point de vue d'un attaqueur qui veut faire de l'évasion, ils ont un manque d'informations très important. Si j'essaie de faire une évasion technique sur McAfee, ça existe encore McAfee, right? Ouais, je pense que oui. Okay. Je sais qu'il y en a plein qui sont morts dans les dernières années, puis je suis pas ça.
Non, ça existe encore, puis c'est drôle parce que tu parles de McAfee, parce que ça a été acheté par Intel, puis ça a été respiné après Intel, leur sortie, parce que... Je pense qu'ils ne comprenaient pas quoi faire avec cette compagnie-là. C'était trop marginal par rapport à l'offre de sécurité qu'ils voulaient monter.
Right. Ça fait que, tu sais, si c'est McAfee, tu essaies de faire une évasion technique sur McAfee, mais l'attaqueur peut downloader McAfee, l'installer sur leur ordinateur, puis rouler leur malware, puis voir, ben, ça marche-tu, ça marche pas, puis, tu sais, comprendre comment ça marche. Dans un EDR, Le pattern le plus commun, c'est que l'EDR va générer de la télémétrie et il va envoyer la télémétrie dans le cloud. Et beaucoup des détections sont faites dans le cloud. L'autre partie de ça, c'est que les signaux eux-mêmes qui se font faire dans le cloud sont souvent pas évidents. Tu sais, oui, il y en a certains qui vont être évidents. Je vais prendre un exemple niaiseux, mais Outlook vient d'écrire un exécutable sur le disque. Les chances sont bonnes que si vous avez un EDR, ben, que ça va détecter ça. Ça va générer un signal sur ça. Mais fondamentalement, un bon EDR est capable de donner de la liberté à l'usager ou au SOC pour dire, moi, je cherche si Outlook écrit un DLL à quelque part sur le disque, puis c'est pas signé, et qui fait plus qu'une résolution DNS dans la première minute après que le processus Outlook est parti. Ben moi, je pense que c'est suspicious, c'est spécial. Il y a de quoi, c'est pas commun. Et si t'es un attaqueur, est-ce que la compagnie ou le réseau que tu attaques a un signal comme ça? Je sais pas. Il y a aucune façon pour l'attaqueur vraiment de le savoir. Et de savoir c'est quoi les vrais paramètres par rapport à ça. Donc, comme un attaqueur, tu sais, qui essaie de s'attaquer à ça puis de faire de l'évasion, ben là, il va essayer, bon, de dire, bon, ben, je me fais prendre. Je sais pas pourquoi, Peut-être que je vais essayer de changer telle partie de mon attaque. Puis là, ça marche-tu? Non, je m'en fais encore prendre. Pourquoi? Je ne le sais pas. Parce que tous ces signaux-là sont dans le cloud. C'est pas facile à prédire. Alors, ça rend ce concept-là de dire, bon, mais tu sais, oui, l'attaque, il y a eu une évasion technique sur telle technique, mais tu sais, il y a 150 autres signaux qui sont très durs à prédire. Nous, on a du monde qui vont rouler des milliers de signaux. On appelle ça des heuristics, right? Donc, qui veut dire que c'est pas boolean, c'est pas malicieux ou bon, mais plutôt que tu sais, on pense que c'est quelque chose de malicieux, puis tu sais, on va avoir des scores par rapport à ça. Alors, quand t'as 1000 signaux comme ça, pour un attaqueur, de dire qu'il faut qu'il soit capable de vraiment faire de l'évasion sur tous ces signaux-là, c'est très, 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 très difficile.
Ouais, ben effectivement. Puis de toute façon, quand on le voit dans les stratégies d'attaque, ils commencent à changer parce qu'ils suivent le marché. Comme il y a une plus grande pénétration sur le marché de DDR maintenant, donc incidemment, ils commencent à comprendre que les signaux les plus classiques, c'est les attaques éclairs, sont repérées tout de suite. Et donc, nécessairement, ils ont commencé à abandonner les attaques éclairs. Quoique j'en vois encore, puis ça me fascine toujours quand je vois une attaque éclair parce que tu as tellement le temps de l'attraper que clairement, c'est un groupe non organisé qui font ça. Normalement, ils ont toujours un délai, il y a toujours une latence entre l'entrée et ensuite la mise en action. Puis certains groupes plus sophistiqués vont attendre que l'entrée et le début et en genre 30 à 45 jours au minimum, justement parce que les logs ou les signaux qui sont dans l'IDR ne sont plus là au bout de 30 ou 45 ou 60 jours, tout dépendant. Fait que ils ont jugé que la plupart des gens utilisaient ces solutions-là, stockaient à peu près 30 à 45 jours, donc ils attendent la fin de la première phase pour partir à la deuxième. Et c'est emmerdant pour l'avoir vécu. Parce que tu ne sais plus où est ton point d'entrée. Parce que ton point d'entrée a été assez invisible et justement, il a contourné la détection, puis il est resté mort. Puis ensuite, tu as 60 jours plus tard, un début d'une attaque, qui là est repéré parce qu'il n'est pas subtil. Mais quand tu essaies de retrouver ton système de ton patient zéro, tu vois absolument plus rien. Puis là, tu es comme, faut que je remonte l'ensemble de mon parc pour tuer parce que je ne sais pas où mon patient zéro.
Exactement. Puis même là, tu peux penser que tu t'es éliminé tout le foothold de l'attaqueur sur le réseau. Mais comme tu n'as pas les logs à long terme, ben, tu sais pas qu'ils ont peut-être droppé un autre stage zero, tu sais, un autre bootstrap dans le fond, quelque part d'autre dans le réseau qui est complètement déconnecté de leur attaque. Et en fait, ils ont encore une présence là. Puis le classique, c'est ça. Tu t'appelles Mandiant qui part, qui vient. Oh, je dis Mandiant, mais n'importe quelle compagnie d'ailleurs, c'est comme ça. Et tu sais, c'est ça. Ils font la réponse sur le réseau. Tout est bien, tout est fini. Un mois plus tard, même attaqueur repart sur tout le réseau parce qu'il avait laissé quelque chose d'un peu différent d'un autre endroit, puis ça n'avait jamais été pris.
Ouais, c'est ça. C'est là où les stratégies d'évasion ont changé du volet pur technique à un volet. Mais il y a quand même un peu de technique dedans, là. Mais elle n'est pas pure technique parce que le but de l'évasion n'est pas de genre je vais évader un hook machin. C'est de ne pas me faire prendre ma première entrée n'est pas attrapée. Et c'est ça qui est le plus important à l'heure actuelle, justement, pour que, exactement comme tu dis, que tu puisses, si on passe la balayeuse, ben que tu es encore là à pérer malgré tout, juste pour emmerder les gens.
Ah oui, c'est l'art du hacking à 100%. Et c'est là que c'est intéressant de voir souvent des rapports en ligne qui vont parler de tels attaqueurs qui sont vraiment avancés. Habituellement, mais pas toujours. Bon, c'est une généralisation, là, mais souvent, quand tu vas lire un rapport sur ça, la vraie sophistication, en tout cas.
Sophistication,
oui. OK, c'est bon. Ne vient pas nécessairement du code malicieux que ce groupe-là avait, mais plutôt de l'ingénuité des hackers, puis de leur processus, puis comment ils roulent les opérations, comment ils se cachent, et c'est fascinant.
Ouais, c'est le volet le plus intéressant. Puis, en tout cas, nouveau sophistication. Moi-même, j'aime pas beaucoup qu'on utilise ça à nauseam comme on a tendance à le faire, là, parce que la plupart des attaquants ne sont pas sophistiqués. C'est juste les défendeurs sont pas bons. Il faut nuancer entre les deux déjà là. Mais quand on en frappe des cas plus ouais, c'est parce que j'en vois, ouais, j'ai un appétit. Ouais, non, mais calme-toi, c'est juste que t'as pas regardé tes logs. Là, c'est pas l'attaquant qui est sophistiqué, c'est toi qui l'es absolument pas suffisamment sophistiqué. Mais ça, c'est un autre débat. Mais quand on arrive dans des cas comme ça, la première, c'est la patience. La patience est énormément. Mais c'est pas les groupes de jeunes. Tu sais, j'en ai vu un, là, tu sais, ça fait quoi, 2-3 semaines, j'en ai vu un, là, mais il est rentré. Il a volé une session M305, puis il a lancé 15 000 courriels d'un coup. Fait que, tu sais, c'est zéro subtil. Si tu voulais avoir de la persistance dans l'environnement, d'où t'as raté ton coup, mais de façon monumentale. Tu sais, ça c'est sûr que juste par le fait que soit l'organisation va le détecter ou soit les victimes de cette attaque-là, qui ont reçu le spam, vont rapporter l'information à l'organisation de d'où ça l'a émané. Mais dans les deux cas, tu sais, c'est un manque de sophistication grave. Mais là arrivent aussi ceux qui arrivent un peu plus loin, qui vont justement à faire étape 1, puis se tenir mort pendant 60, même 90 jours dans certains cas que j'ai vus. Ils sont très patients, là, tu sais, puis je vais faire un aparté sur le bug MSA qui est sorti pour Microsoft, là, le fameux, la fuite de la clé principale. Puis, je trouve l'attaquant très patient parce que si j'avais réussi à avoir ça dans les mains, moi, j'aurais fait la danse de la victoire. C'est sûr, il m'aurait retrouvé tout de suite parce que j'aurais vraiment fait la danse de la victoire. J'aurais pas été capable de me retenir du plaisir d'utiliser une clé aussi puissante que celle-là. Fait que, kudos à l'attaquant d'avoir été justement de contrôle, de pas utiliser une attaque aussi puissante que ça dans un de lit très court. Mais bref, retournons justement l'évasion plus sophistiquée dans le volet IDR.
J'ajouterai un peu sur ce que tu as dit aussi par rapport au log qui est c'est important d'avoir des logs à long terme et c'est important d'avoir assez de logs. Et c'est un sujet difficile parce que souvent, ça coûte cher de garder ce log-là. Mais vraiment, je pense que c'est quand même important de mentionner que à la fin de la journée, si on n'a pas les logs, il n'y a pas de façon magique de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il faut mettre l'emphase où est-ce que ça va. T'sais, nous, c'est exactement pour ça. Nous, en tout cas, on s'est dit dès le début, comme nous, on va faire un an de rétention parce que on savait que bon, tu peux toujours être plus un jour, mais au moins t'sais, un an. Si l'attaqueur ça lui a pris un an à vraiment se déplacer dans le réseau, bon ben ils l'ont mérité. Là. mais à la fin de la journée, c'est ça, ça prend des logs. Il n'y a aucun silver bullet.
Oui, tout à fait. Puis je pense que quand je nommais le 30-45 jours, ça se base sur les logs conservés par Microsoft. C'était vraiment essentiellement ça. Les attaquants se sont collés sur la conservation standard de Microsoft pour définir la ligne où les logs allaient être perdus, comme il y a aussi, je pense, c'est dans. La structure de gestion de code chez Microsoft aussi, c'est la même chose. Je pense au bout de 30 jours, l'historique a disparu. Fait que là aussi, c'est une autre stratégie que les attaquants se sont adaptés. Ils ont vu, OK, par défaut, c'est 30 jours. Ben, on injecte un code. On attend plus que 30 jours pour que ce code-là devienne le code le plus vieux de la source de code. Et de là, on est capable d'aller plus loin. Et on n'est plus capable de retracer qui a fait la dite modification. Puis, donc, ce code-là se compile et devient natif dans l'application qui est faite. C'est dans ces stratégies-là, mais on sont de plus en plus patients et connaissent les limitations des systèmes qu'on a dans nos mains.
Absolument. Et je dirais aussi que, tu sais, il fut un temps où la description que tu as donnée, c'était APT. Toujours APT, tu sais, les Advanced Persistent Threats, c'est eux qui avaient les meilleurs opérateurs. Mais de nos jours, il y a beaucoup de crimes, d'organisations de crimes organisés comme ça qui font différents types d'attaques et qui sont très bons eux aussi. Alors moi, avoir vu comme la transition, je trouve que ça fait peur parce que maintenant, c'est, tu peux pas juste dire ah bon ben moi tu sais le CIA est pas après moi alors j'ai pas besoin de me préoccuper de ça. Tu sais il va avoir des attaques. Si vous avez de l'argent, s'il y a quelque chose d'intérêt dans la compagnie ou même du ransomware. C'est comme ça va arriver.
Ils sont là pour faire de l'argent. Dès que la capacité de faire de l'argent avec vos données, avec votre capacité d'opérer, ils vont être présents. Je trouve ça intéressant. Puis je vais faire justement un pointer vers la conférence d'Olivier Bilodeau et Andréane Bergeron, qui ont fait d'ailleurs au DEF CON et au Black Hat et au GoSec. Parce que la tourne un peu partout. Puis c'est sur l'analyse d'une espèce d'un hypothèse RDP qu'ils utilisent. Et l'analyse qu'en fait et la présentation qui l'accompagne est très intéressante parce que justement il démontre à quel point les attaquants découpent les étapes. Fait que l'étape de juste du dropper, celui qui est le premier ou le recon qui s'installe, c'est une étape 1. Et ce qui fait que quand je parlais de la danse de la victoire tantôt, ben la réalité c'est que celui qui a fait la première étape n'est pas la même personne qui utilise le code qui a été trouvé ou l'élément de persistance, ça fait que c'est plus la même personne. Fait que c'est revendu, c'est des stratégies qui sont très découpées, qui sont très représentatives de comment on aborde les TI en général. Donc, on est très silo, on est très fermé. Mais les attaquants font exactement la même chose. C'est tous des silos. Fait que là, celui qui drop, puis s'il ne se fait pas attraper, mais va revendre ça à quelqu'un qui va, puis probablement pas par accident, il n'est pas réfléchi 30 jours, c'est juste parce que le cycle de vente, puis ça se rend, prend probablement 30, 45, 60 jours. Donc, naturellement, ça prend un temps avant que de toute façon qu'il arrive avec un attaquant qui vienne utiliser ce genre de choses-là. Mais ça l'a changé de façon très drastique. Avant, c'est le groupe, le APT faisait tout. Ouais, maintenant, le APT arrive très souvent tardivement dans l'histoire où c'est différents composants. Là.
Mm-hmm. Absolument, absolument. On voit même des fois à l'intérieur, tu sais, les groupes organisés ou les APT, qui même à l'intérieur de l'organisation ont différentes équipes. Puis tu sais, donc, ils donnent aux internes la job d'aller mettre des droppers dans des compagnies. Puis là, ben, tu vois que c'est une autre équipe qui utilise un outil différent qu'ils vont redropper après. Tu sais que c'est la bonne équipe où des fois, ils se rendent compte qu'ils sont dans un endroit que ça les intéresse pas tant que ça. Puis tu vois qu'ils donnent ça à l'équipe B. Puis là, l'équipe B, c'est eux qui font des fautes quand ils font des commandes. Puis tu sais, tout ça, ça fait beaucoup de sophistication.
Oui, ça a beaucoup changé. Oui, effectivement, c'est très intéressant. C'est très intéressant. D'un point de vue analyse, parce que nous, on est de ce côté-là, qui est de regarder voir comment ça l'a vraiment beaucoup évolué dans les dernières années où c'était justement des éléments plus personnalisés, plus custom qui étaient développés. Puis ça m'a fait penser que toute ton analogie des antivirus, genre tu as trois moteurs principaux qui sont juste revendus. Ben, on a la même chose au niveau des malveillants. T'sais, on a les mêmes moteurs de malveillants comme Emotet, Quackbot, Trickbot, par exemple, qui était le plus fort de ce que j'ai travaillé dans un SOC qui était très actif. Ben, c'est tous des modèles qui sont rachetés ou qui sont réutilisés par des groupes. Puis le groupe 1 qui fait Emotet, ben, loue ensuite ce qu'Emotet a fait. Puis bref, tout ça s'enclenche comme par la suite, ils sous-louent les capacités de l'autre. Fait que puis ils ne développent pas tant. C'est ça aussi, les autres, ils sont très paresseux, fait qu'ils ne développent pas tant.
Non, exactement. Si ça marche, pourquoi rajouter, tu sais? Alors,
oui, effectivement. Ça, c'est une question de rentabilité. Là. Ils essaient de faire comme n'importe quelle compagnie capitaliste, d'extraire le maximum d'argent du moindre effort possible. Fait que c'est un peu cette stratégie-là. Puis, anecdote, ça doit se passer. Il faut commencer des signaux que vous devez commencer à avoir. Le vol de jetons M305 avec Evil Jinx, par exemple, qui est le meilleur moteur. Puis ce qui m'a fasciné, puis j'ai vu une présentation cet automne là-dessus, c'est que Evil Jinx est sorti en 2017. et son uptake réel par les malveillants commençant en 2022.
Wow.
Ça veut dire qu'avant 2022, il n'y en avait pas de besoin.
Ouais.
C'est ça aussi que ça veut dire. C'est fou, hein?
Ah, aïe, 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 aïe. Puis honnêtement, c'est un bon sideway dans le XDR. Parce que là, ben là, on commence à dire que oui, il y a le EDR, il y a l'endpoint, mais on commence à jouer dans d'autres types de plateformes comme Office 365. Et donc, c'est là que tous les concepts qu'on vient de parler, dans le fond, s'appliquent encore. Bien que ce soit dans un cloud platform comme Office. Mais sauf que là, maintenant, c'est plus est-ce que un processus vient de partir? Ben là, c'est est-ce qu'un usager vient de se faire créer dans mon domaine, dans Office 365. Alors, c'est un autre encore comme type d'évasion, les évasions qui se mettent à rentrer là-dedans. Puis c'est des techniques qui sont très différentes en même temps du point de vue où tu sais toutes les plateformes cloud maintenant ont tellement beaucoup de profondeur et ont tellement beaucoup de systèmes différents. Tu sais, je sais pas sur, je connais pas Azure particulièrement profondément, mais tu sais tu peux créer un compte puis tu vas avoir certaines permissions puis tu peux avoir un autre compte qui a certaines permissions pour impersonnifier tel autre compte puis tu sais il y a beaucoup de complexité dans tout ça. Et donc, ce qu'on voit de plus en plus, ben, c'est des attaqueurs qui n'essayent même pas d'arriver sur l'endpoint. C'est même pas Windows, c'est à quoi ils s'attaquent. Ils vont aller directement vers le cloud et ils vont trouver des façons très ingénieuses de se cacher dans des configurations de Office 365, qui est, en tant que défendeur. C'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle surface d'attaque que je dirais il y a 5 ans même, c'était pas le monde n'y pensait pas beaucoup et maintenant on voit que c'est une très grosse affaire.
Ouais, tu sais ce genre de choses là, mais il reste encore, puis c'est ça qui est fascinant, c'est que le vecteur d'attaque principal est les courriels et comme les courriels sont ouverts en général sur le desktop. C'est là devient le on revient toujours au fait que le endpoint devient quand même le l'espèce de point de rebond principal pour arriver à ça, mais on n'est plus dans un contexte comme on était il y a disons 10 ans où on devait capter probablement 100% des signaux sur le poste pour réussir à avoir une intervention efficace. Quand là on peut se concentrer sur les vecteurs principaux, dont le courriel. C'est pour ça que maintenant, les règles standards, on parle de Outlook, bien, la règle standard, c'est justement Outlook qui démarre un exécutable, ou un Word qui démarre un exécutable. Ce sont des patterns très standards qui sont encore en utilisation de nos jours. Ça fait au moins 5 ans que ça existe, c'est pas plus. Ils sont encore standards parce que ça fonctionne encore. Et c'est encore le endpoint qui sert de tremplin vers l'info nuagique. Puis souvent, parce que l'attaquant va présumer, puis là tu parles de M365, que la machine corporative, elle est de confiance et va permettre de rentrer plus vite dans le cloud de M365 dans ce cas-ci, qu'une machine, un KIDAM, quand on arrive de l'extérieur comme ça. Fait qu'il reste toujours quand même une zone qui, à mon sens, très importante, mais là, on embarque dans du XDR, c'est-à-dire que tu combines ton endpoint avec les autres logs. Puis, à mon avis, c'est la contribution du EDR au changement de paradigme qu'on a en sécurité, où avant, on avait des CIEM, puis on avait des logs, puis là, c'était tough, puis ça faisait mal, puis on n'aimait pas ça, à un environnement où maintenant, on est plus... on traite des signaux, c'est-à-dire qu'on traite de l'information prédigérée davantage. Et ça nous vient vraiment des EDR qui ont popularisé cette façon d'approcher les logs de sécurité qui étaient avant pas très agréables. Maintenant, ils sont pré-mâchés comme les EDR font.
Oui, non, exactement. Et je pense que ça revient, je pense, à un sujet dont on a jasé la dernière fois par rapport à le detection engineering. C'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment été amené par le EDR. Et c'est cool de voir qu'on est capable de continuer ça dans le XDR puis dans toutes ces choses-là. C'est cool.
Mais ça ramène au niveau de l'évasion. Puis là, je vais boucler là-dessus pour l'évasion. Parce qu'on en, comme d'habitude, on a dévié sur d'autres choses. Au niveau de l'évasion, au niveau peut-être plus conceptuel, puis c'est là où ça vient, c'est que ça repose également sur les équipes. Et c'est là où on est dans un contexte où on a moins d'automatisme. Plus on aborde dans le conceptuel, moins on a d'automatisme. Donc, c'est un peu plus difficile. Et là, ça devient l'élaboration. Tu parlais justement, l'attaquant ne connaît pas les règles. Il faut que l'organisation soit capable de concevoir des règles ou des capacités détectées qui sont propres à leur environnement. Puis ça, c'est là où les MSSP, des fois, ne sont pas nécessairement le plus adaptés pour ce genre de choses-là. Ou demandent une courbe d'apprentissage qui est quand même assez grande, justement, pour arriver. Et où l'évasion devient, pour l'attaquant, plus probable parce que, connaissant la nature des équipes de sécurité qui surveillent, là, on est capable de jauger où on se situe. Là.
Oui, exactement. Et je dirais que une partie de ce problème-là est que, tu sais, donc il y a les signaux. Il y a la télémétrie, il y a les règles. Et ensuite, il y a, donc ces règles vont émettre, disons qu'on appelle ça des alertes. Et après ça, tu as les équipes qui vont regarder ça. Je pense que maintenant, du côté EDR, on est à une époque où c'est relativement facile d'avoir des bonnes règles, d'aller chercher des règles intéressantes sans les développer soi-même. Tu sais, il y a des choses comme Sigma, qui est un très bon effort en ligne, c'est open source, un langage, dans le fond, pour définir des règles. Et donc, c'est relativement facile dans la plupart des plateformes d'aller chercher ces règles-là et les appliquer. Le challenge est dans l'équipe qui reçoit l'alerte et qui essaye de comprendre est-ce que c'est un faux positif ou un vrai positif. Et c'est là que, oui, les MSSP, c'est vraiment là qu'il faut que le MSSP, mette l'effort pour ne pas discarder, tu sais, juste ignorer des choses, mais vraiment être capable de faire l'investigation. Mais tu sais, je pense que toutes les règles ne sont pas faites de la même façon, sont pas faites égales. Tu sais, je pense que maintenant, de nos jours, avec des choses comme Sigma, il y a beaucoup de règles que une équipe qui est bonne, sans être incroyable, peut utiliser et avoir des bons signaux de ça, qui n'ont pas besoin de trop d'investigation. Ou au moins qui sont capables de, que oui, il y a une investigation pour répondre à l'incident, mais qui sont capables de voir assez rapidement s'il y a quoi de malicieux ou pas. Je pense qu'on est beaucoup mieux qu'on était, disons, il y a 5 ans de ce point de vue-là.
Ouais, je confirme, les outils ont changé beaucoup depuis 5 ans, là, depuis. Mais j'ai fait mes premières armes dans un SOC moderne. Les EDR ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué. Les règles sont plus complètes, demandent moins d'ingénierie. Mais quand on parle d'évasion, puis on parle justement de techniques de hacking, les règles sont genre pas suffisantes par elles-mêmes pour agir. Et c'est là où la qualité de l'équipe ou du MSSP qui va avoir une influence très importante sur justement la capacité d'amener, puis tu ne l'as pas nommé en onde, parce que puis je trouvais ton point très intéressant, c'est l'objectif du EDR, c'est d'arrêter l'attaquant, pas d'arrêter l'attaque. Tout à fait. Et la nuance est très importante parce que on a été habitué par l'antivirus qu'on a arrêté l'attaque, mais l'EDR n'est pas fait pour arrêter l'attaque, mais fait pour arrêter l'attaquant. Et ça ne demande pas la même réflexion et la même approche. Et donc, quand on fait le hunting ou le threat engineering puis tous ces éléments-là, quand tu es là pour arrêter l'attaquant, ben tu dois te mettre dans ses souliers davantage. On est dans une autre zone complètement.
Oui, absolument, absolument. Et je dirais que c'est une des choses, comme tu as dit, qu'on a été habitué par les antivirus, mais je dirais en général dans l'industrie, à penser de façon très technique. Je pense que la plupart du monde qui viennent en sécurité arrivent d'un point de vue comme, tu sais, qui sont intéressés par la technique, par l'idée d'un exploit, par exemple. Et à la fin de la journée, la réalité est que les techniques, c'est une partie importante, mais c'est une partie. Et je pense que la meilleure façon de voir la preuve de ça, c'est du nombre d'attaques qui ont un bon succès et qui utilisent des techniques très très vieilles, très très habituelles, très très connues. Alors absolument, arrêter l'attaquant, c'est vraiment, je dirais, c'est le slogan de l'EDR et je dirais du MSSP. Je pense que c'est là qu'il faut que le MSSP opère. Un MSSP devrait pas être un clearinghouse, tu sais, un forwarder de email, tu sais, d'alerte. Je pense que l'avantage d'avoir un MSSP de votre côté, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est capable de connecter les signaux ensemble et de comprendre, de voir le big picture de ce qui se passe.
Justement, de trouver l'attaquant dans les logs. Excellent, ça, on a fait un bon tour d'horizon. Je te remercie énormément. C'est encore une conversation qui est très intéressante. On a touché beaucoup de choses et beaucoup de choses de travers aussi. Bref, je te remercie énormément de ton temps et de ta générosité.
Ça me fait plaisir. C'est des bonnes discussions.